Donc, les Khmer Rouges ont fusillé, ont commencé par fusiller tous les intellectuels, les chefs de service, les notables. Et ensuite, ils ont vidé toutes les villes du Cambodge. Ils ont demandé à tous les habitants des villes de partir, de quitter leur maison et d'aller se purifier par des travaux forcés à la rizière. C'est ce qui est raconté dans Revenu de l'enfer. Je ne reviens pas. Donc moi, je suis partie ainsi, mais si je suis là devant vous, c'est parce que je suis une femme. Et les Khmer Rouges ne pensaient pas qu'une femme pouvait avoir pu faire des études et que j'étais chef de service. J'étais directrice technique de l'Institut de traduction des manuels scolaires de français en Khmer. Parce qu'on avait tout copié sur la France, excusez-moi. Donc, on a tout copié sur la France, donc on va traduire les manuels scolaires de français en Khmer. Bon, ils ne soupçonnaient pas que j'étais chef de service, donc j'ai été envoyée. J'étais enceinte de 2 mois et j'avais un fils de 3 ans avec moi. C'est ainsi que je suis restée 4 ans dans ce camp de travail. Voilà les faits. Et en 1990, donc, alors, de 75 à 79, ça va être les 4 ans de régime Khmer Rouge, communiste rouge. En 1979, le Vietnam va envahir le Cambodge. Parce que, alors, il faut que je vous dise, peut-être vous ne savez pas trop. Voyez que la guerre du Vietnam, si les Vietnamiens ont gagné cette guerre-là, c'est parce que la Chine a beaucoup aidé. D'accord? Mais les Vietnamiens sont des gens très intelligents. Très. Mieux que nous, les Cambodgiens. Une fois la guerre gagnée, les Vietnamiens ne voudraient pas payer le tribut de guerre qui est très lourd à la Chine. Ils ont dit que nous, on se tourne vers le grand frère soviétique. Ils ont viré de bord. Ils ont tourné, se sont tournés vers la Russie à ce moment-là. Alors, le grand frère chinois a été mécontent. Il a déboursé pas mal. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait envoyé le Cambodge en guerre contre le Vietnam. Il soutient le gouvernement Khmer Rouge. Alors, les Cambodgiens sont rentrés en guerre contre le Vietnam, mais les Vietnamiens sont beaucoup plus forts. Ils sont beaucoup plus entraînés que les soldats Khmer Rouge. Donc, le Cambodge a été envahi par l'armée vietnamienne en 1979. Et le Vietnam est resté maître du Cambodge de 1979 à 1989. À 1989, 10 ans. Et en 1990, c'est l'accord de Paris. C'est l'accord de Paris qui est signé à Paris. Alors qu'ils demandent au Vietnam de quitter le Cambodge, et c'est parce que les Vietnamiens ont envahi le Cambodge que j'ai été libérée, moi. Vous voyez? Et les Vietnamiens ont fait connaître au monde occidental les atrocités de ces génocides de Khmer Rouge. Donc en 90, il y a donc un accord de Paris qui est signé à Paris, qui va mettre le Cambodge sous l'égide, sous l'autorisation de l'ONU. Il a construit ce qu'on appelle l'APRONUC, c'est-à-dire Autorité Provisoire des Nations Unies au Cambodge. L'APRONUC a pour mission de réconcilier les frères ennemis. Vous voyez, de réconcilier les Khmer Rouges et les différentes factions des Khmer. Et voilà, donc il y a eu une élection à peu près libre, j'allais dire. Les Khmer Rouges ont perdu des élections. Et à ce moment-là, en 1990, l'autorité internationale, l'opinion internationale demande au Cambodge, aux Cambodgiens de faire la réconciliation. Moi, j'ai été outrée de voir que le président de la République française a reçu pompeusement à ce moment-là Khieu Samphan à Paris, le numéro 2 des Khmer Rouges. Mais on nous a dit qu'il fallait se réconcilier. Voilà. On a demandé la réconciliation. Et les Khmer Rouges sont donc ils sont donc mis dans un petit village, dans un coin. Et il y en a d'autres qui se sont convertis, j'allais dire, qui sont rentrés dans le gouvernement actuel. Et notre premier ministre actuel, M. Hun Sen, est un ancien Khmer Rouge. Donc, il y a finalement au Cambodge, actuellement, on ne sait plus qui est qui. Vous me suivez, hein? On ne sait plus qui est qui. Voilà qu'en juin 2005, Kofi Annan et la communauté internationale décident de mettre en place le tribunal international pour juger des Khmers Rouges au Cambodge. Alors, l'opinion Khmer n'a pas très bien reçu cela et la communauté internationale ne comprenait pas pourquoi les Khmers, ils sont idiots comme ça. Il y a un tribunal pour juger les criminels et ils ne sont pas d'accord. Qu'est-ce qu'ils cherchent ces gens-là? C'est ce qu'on me pose souvent comme question. Et moi, j'étais en conférence à Paris, aux cités universitaires. Pourquoi on n'accepte pas ce tribunal international? J'ai dit que mettez-vous à la place des Khmers au Cambodge. La corruption est omniprésente actuellement. Le Cambodge est loin d'être un pays de droit. Et c'est-à-dire qu'au Cambodge, actuellement, vous savez, il y a ce qu'on appelle les spoliations de terrain. Je vais vous donner un exemple et vous allez très vite comprendre. Les spoliations de terrain. C'est-à-dire que avant, il y avait beaucoup de réfugiés en Thaïlande. Tout le monde n'a pas pu partir comme moi dans les autres pays. Et l'ONU, en 1990, a donc décidé de les rapatrier au Cambodge, les réfugiés sur les frontières thaïlandaises. En les rapatriant, on va distribuer à chaque famille 2 hectares de terre. Chaque famille reçoit 2 hectares de terre, distribués par l'ONU. Et en 2004, il y a une cinquantaine de familles qui se trouve sur un terrain où le gouvernement a pensé que c'est un très bon terrain pour cultiver le caoutchouc, l'EVA culture. Le gouvernement Khmer a vendu ce terrain à une multinationale, en chassant ces paysans de la terre. Ils ont écrit à Kofi Annan. C'est normal, ils ont reçu de l'ONU. Mais l'ONU n'a pas réagi. L'ONU n'a pas réagi à ça. Ils ont été chassés de la terre. Et comment voulez-vous que ces gens-là comprennent le tribunal international? Parce que l'injustice de maintenant n'a pas été jugée et on va mettre des milliards de dollars pour prétendre juger l'injustice qui s'est passée 30 ans après. Est-ce que c'est simplement pour la bonne conscience des Occidentaux? La question est urgente, vous voyez, mais le tribunal est déjà arrivé. Alors, le deuxième fait, quand je le dis ça aux intellectuels Khmer, là, aux intellectuels français, des fois je le rencontre, mais je dis réfléchissez à ça, il y a deux faits. Le deuxième fait, là quand j'étais dans le camp de Pol Pot, et j'ai entendu de mes propres oreilles, les Khmers Rouges nous disent qu'il fallait travailler et que notre vie ne compte pas beaucoup. Parce que nous, les Khmers, nous pouvons mourir. Il y aura des millions de Chinois qui peuvent peupler le Cambodge. On nous a dit ça chaque jour. Notre vie, nous, en tant que Khmers, ça ne compte pas. L'ONU, c'est là qu'on n'a pas réfléchi. L'ONU a nommé comme représentante pour ce tribunal international, une Chinoise, Michelle Li. Vous savez comment? Peut-être que c'est une femme extraordinaire qui a beaucoup de valeur, mais quelque part, on a foulé aux pieds la sensibilité des victimes Khmer. Vous voyez? Donc tout ça, ce sont vraiment des choses qui font que la communauté internationale a perdu la crédibilité aux yeux des Khmer. Voilà comment le Cambodge, son peuple, se trouve 30 ans après ce génocide. Et actuellement, on essaie de survivre. On essaie de survivre dans un pays de non-droit. Écoutez, moi, je suis retourné au pays en 2003. J'ai retrouvé ma maison. Je suis allé la visiter. Et le propriétaire actuel est venu proposer me la vendre à 150 000 $. Alors que lui, il n'habite pas là. Il prend ça pour louer à des ambassades étrangères, vous voyez, pour se faire de l'argent. Alors moi, j'ai rencontré le conseiller juridique. C'est un Allemand qui travaille à l'Assemblée nationale Khmer. J'ai dit, mais écoutez, monsieur, moi, je ne prétends pas reprendre mes biens, mais il y a quand même un grand point d'interrogation. Je vais dire que quand on nous a chassés de nos maisons, nous sommes partis sans rien. Et on n'osait rien garder, pas de papier d'identité, rien du tout. Vous savez, surtout moi, pour qu'on ne puisse pas avoir des preuves qu'on est intellectuel, des choses comme ça. On a tout détruit, on n'avait rien. Je comprends très bien qu'après, on ne pouvait pas savoir quelle est la maison, est à qui est à qui, on ne peut pas le redonner. Bon, bref, on va tirer le trait. Mais si on tire le trait, pourquoi on ne garde pas tous ces biens-là comme un bien de l'État? Vous voyez? Et que l'État loue à des ambassades. Et que l'État aille un peu d'argent pour construire le pays. Là, je ne trouve rien à dire. Mais au lieu de ça, on va les redistribuer. Donc, actuellement, si vous allez au Cambodge, il y a une classe extrêmement riche, très riche. Il y a des voitures de luxe que vous ne voyez même pas en France. Et à part ça, il y a des gens très pauvres à côté de ça. Un professeur, moi je suis allée retourner à la faculté de droit, à la faculté des lettres, et au lycée où j'enseignais, comme professeur de philosophie, je rencontrais des collègues. Vous savez combien il gagne un professeur actuellement au Cambodge? Il gagne 50 $ par mois. Mais 50 $ par mois, ça ne vous dit rien, parce qu'il faut vous dire que pour pouvoir vivre décemment, je veux dire décemment, il faut avoir 150 $ par mois. D'où la corruption est à tout niveau. Les enseignants font payer les élèves. Et ainsi de suite. Vous voyez? Donc c'est un pays chaotique de non-droit. Et on va faire un tribunal international pour juger un crime de 30 ans après. Alors là, nous autres intellectuels, un petit peu en dehors, on a essayé de dire que oui, d'accord, on ne peut rien contre l'ONU, mais on essaie de faire un travail de mémoire. C'est-à-dire qu'au moins qu'il y ait que des gens qui sont en dehors, et qu'on puisse retourner au Cambodge, qu'on puisse un peu parler, exposer un peu ce que nous comprenons. Parce que les Khmer Rouges, comment cela a-t-il été possible? Ce n'est pas une génération spontanée. S'il y a des Khmer Rouges, il y a bien des causes humaines, économiques, politiques qui les ont amenés au pouvoir. Il fallait bien, comment vous dire, analyser ces causes. Mais seulement, si on va analyser ces causes, on va toucher le pouvoir actuel. Oui, et c'est très délicat. Mais là, je viens de recevoir un courriel, pour ne pas dire un email. Un courriel du Cambodge qui a dit que la communauté européenne a accepté de donner un peu d'argent et qu'ils puissent avoir un séminaire de 3 jours et que les intellectuels khmers qui se trouvent dehors, qu'ils puissent rentrer pendant 3 jours, faire une analyse. Et on invitera l'ONU à venir nous écouter sur notre analyse. Mais le problème se pose jusqu'où notre sécurité est protégée. Voilà. Là, c'est la grande question.